RCF.
Yves Krummenacker, vous avez expliqué précédemment de quelle manière les fameuses 95 thèses de Luther ont été affichées, proposées, tel que ça se faisait dans les universités de l'époque de cette fin du Moyen-Âge. Quel est le retentissement de cet affichage, de ces propositions? Comment les élèves, notamment les étudiants, reçoivent-ils ces points proposés par Luther?
Alors, l'impact a été très grand et a sans doute surpris Luther lui-même. Il semble qu'il ait été un enseignant très apprécié de ses étudiants. Les thèses vont être imprimées à son insu à Wittenberg très vite et donc vont se diffuser rapidement au point qu'il va être obligé de réécrire des textes sur ce sujet pour préciser ses positions.
Donc, ça lui échappe en quelque sorte.
Donc ça lui échappe, oui. Et ce dont il ne se rendait sans doute pas compte sur le moment, c'est que le débat était beaucoup plus vaste qu'une simple dispute académique sur le mécanisme du salut, mais qu'il s'attaquait à des adversaires importants, les dominicains par exemple, puisque la personne qui prêchait les indulgences faisait partie de l'ordre dominicain. L'archevêque de Mayence, à qui il écrit pour demander de faire cesser cette campagne d'indulgence, n'a pas du tout envie de faire cesser parce que lui-même devait recevoir une partie des revenus de cette campagne d'indulgence et refuser la campagne d'indulgence qui a été décrétée par le pape, c'est d'une certaine manière s'attaquer au pape également. Il y a vraiment deux questions là derrière. Il y a cette question du salut qui est plutôt une question disputée, ouverte entre théologiens. Alors il y a différentes écoles, certains n'hésitent pas à condamner les thèses de Luther sur le salut, mais là on est dans le cadre de ces questions disputées en théologie. Et puis il y a ce qui est beaucoup plus grave, ce qu'on va lui reprocher, c'est s'attaquer à l'autorité ecclésiastique. L'archevêque, le pape, et très rapidement, il est opposé à des contradicteurs, le légat du pape.
Il est convoqué donc.
Bon, il ne va pas jusqu'à Rome, donc il y a des débats qui ont lieu dans différentes villes d'Allemagne, notamment donc, contre ce légat du pape Cajetan, contre Johann Eck, qui est considéré comme un des plus grands théologiens de l'époque, et qui, plus quelques autres contradicteurs, et habilement, Eck notamment, fait glisser le débat de la question du salut à la question de l'autorité dans l'Église, et oblige Luther à concéder qu'il remet en cause l'autorité du pape, qu'il remet en cause également l'autorité des conciles et que finalement il n'y a plus d'autorité dans l'Église en dehors de l'Évangile et le pape, les conciles n'ont d'autorité que dans la mesure où leur parole est conforme à ce qu'on peut trouver dans l'Évangile.
C'est irrecevable ?
D'un point de vue théologique, ça pourrait se défendre et quand même bien des théologiens le défendent, des gens qui vont suivre Luther par la suite. C'est difficile à admettre par les différents intéressés.
Il est inquiété ?
Alors, un procès s'ouvre très rapidement après la publication des 95 thèses. Le procès traîne, notamment pour des raisons tout à fait politiques. Et là, il faut revenir à la situation politique de l'Empire. C'est que Luther est protégé par son prince, l'électeur de Saxe, notamment parce que c'est le professeur vedette de sa nouvelle université, celui qui fait venir des étudiants à Wittenberg. Et donc, le prince le protège. Et tant que le prince le protège, l'empereur a du mal à intervenir. En plus, ça tombe bien, on est dans une période de vacances d'Empire. L'empereur Maximilien meurt, Charles Quint veut se présenter, veut être élu. Il a besoin de la voix de l'électeur de Saxe. Donc, tant que l'élection de Charles Quint n'est pas faite,
Luther est relativement protégé.
Il est protégé, effectivement. Il le sera aussi par la suite, mais la situation sera un peu plus délicate.
RCF, Véronique Alzieux.
Alors, est-ce qu'il se fait oublier dans cette période-là ou, au contraire, il réaffirme ses positions, il les retravaille, il les approfondit ?
Alors, il va s'obstiner dans cette opposition, approfondir, donc dans de nombreux sermons. Alors, ce qu'on appelle sermon, c'est en fait moins des prédications que des textes imprimés, qui ressemblant un petit peu à la forme du sermon, différents traités théologiques, et notamment toute une série de traités écrits en 1520, où il va approfondir non seulement la question du salut, mais aussi tous ces autres problèmes dont les débats ont montré qu'ils étaient liés à cette question du salut, savoir qui a autorité dans l'Église, quel peut être le rôle des laïcs dans l'Église, est-ce que le clergé constitue une sorte de caste séparée des autres ou non, et puis la question des œuvres qui pose problème dans sa perspective.
Est-ce que le mot hérésie est prononcé à son encontre ?
Alors, il va être condamné, ou plus exactement, ce n'est pas lui qui est condamné directement dans un premier temps. Le 15 juin 1520 est promulguée une bulle exsurgée dominée qui condamne comme hérétique 41 de ses propositions. Donc ce sont les propositions qui sont condamnées et non pas Luther lui-même.
Toujours à cause de ce que vous avez expliqué, du contexte et de la protection dont il bénéficie de la part de Frédéric de Saxe ?
Non, c'est relativement courant en fait de condamner plus des propositions que la personne. Ensuite, si la personne s'obstine et refuse de reconnaître ce qui est considéré comme des erreurs, là, elle peut être considérée comme hérétique. C'est ce qui advient avec Luther. Cette bulle date du 15 juin, mais elle est promulguée à Rome. Le temps qu'elle soit connue en Saxe, ça met quand même pas mal de temps. On en entend parler en fin d'année. En décembre, Luther connaît ce texte de la bulle et le 10 décembre, il brûle. Pas très loin de l'université du couvent de Wittenberg, plus exactement, aux portes de la ville. Il brûle solennellement cette bulle, ainsi que toute une série d'ouvrages de droit canon, pour bien montrer qu'il rompt cette fois avec cette église qui le condamne.
Donc là, c'est un geste de provocation avéré.
Oui, et bon, la riposte pontificale ne se fait pas attendre, puisque le mois d'après, une nouvelle bulle est promulguée qui, cette fois, le condamne comme hérétique. Et on demande, le pape demande ensuite à l'empereur de condamner également Luther, parce que dire qu'il est hérétique, ça n'enlève rien à la liberté de Luther dans les États allemands.
Qu'est-ce que ça veut dire le condamner, que l'empereur le condamne ?
Que l'empereur le condamne, ça veut dire qu'il va être mis au ban de l'Empire, c'est-à-dire qu'il ne bénéficie plus des protections que tout citoyen de l'Empire peut avoir.
Il n'a jamais été inquiété au point de se voir arrêté et conduit au bûcher, comme c'était des pratiques qui avaient cours à ce moment-là quand même.
Il en avait très peur. Il y avait le précédent 100 ans avant du réformateur tchèque Jan Hus, qui avait été convoqué au concile de Constance et qui n'en est jamais reparti puisqu'il a été condamné au bûcher. Luther n'a pas voulu se rendre à Rome pour les différentes convocations, ayant peur d'être arrêté. L'électeur de Saxe a réussi à le soutenir et obtenir que si procès doit y avoir, ça doit se passer en Allemagne. Et de fait, Luther est convoqué lors d'une diète à Worms en 1521.
Et 1521.
Oui.
Donc, quatre ans après.
Donc, oui, c'est dire que les choses
thèses,
sont... C'est pas le 31 octobre 1517 que tout...
C'est un processus.
Que tout se transforme. Il y a un processus, oui, assez long.
Alors, la convocation devant la diète ?
Alors, il est convoqué devant la diète. Il obtient un sauf-conduit pour être sûr d'y aller et de repartir librement. Sauf-conduit de l'empereur. Là, il peut exposer son point de vue, mais bon, les jeux étaient joués d'avance. Lui pensait sans doute pouvoir convaincre. En fait, il n'avait sans doute aucune chance face à l'empereur, au légat du pape et à la cour. Donc il est condamné, mis au ban de l'Empire, ce qui veut dire qu'il peut être arrêté, condamné à mort, n'importe où dans l'Empire romain germanique.
Qu'est-ce qui fait qu'il y échappe ?
Alors, il y échappe parce qu'il est protégé à nouveau par l'électeur de Saxe. C'est-à-dire qu'il bénéficie du sauf-conduit pour revenir vers la Saxe. Pour plus de sûreté, l'électeur, avec sa complicité sans doute, le fait enlever en cours de route.
Un faux enlèvement, donc.
Un faux enlèvement, oui. Et il va passer à peu près un an dans un château, le château de la Wartburg, donc en Saxe, à Eisenach, au-dessus d'Eisenach, plus exactement, où il va surtout continuer des travaux théologiques, continuer à traduire la Bible, qu'il avait commencé à la traduire, faire des travaux d'exégèse sur les psaumes, sur le Magnificat, par exemple, et puis de différents travaux de théologie. Il se retire un peu de l'action pendant qu'il est à la Wartburg.
Pendant ce temps, en quelques mots pour conclure, Yves Krummenacker, ces idées, elles, continuent d'être diffusées et de faire des adeptes ?
Oui, et c'est sans doute cela qui va être le bouleversement principal. Un certain nombre de ses disciples vont vouloir mettre en application ce qu'ils pensent être ses idées et donc supprimer la manière traditionnelle de dire la messe, supprimer tout un certain nombre de pratiques de l'époque. À partir du moment où Luther ne met plus le clergé à part, ses disciples vont dire que le clergé peut se marier, et donc des moines, des prêtres, des curés se marient effectivement. Donc des bouleversements très importants qui se produisent dans un certain nombre de paroisses en Saxe et même à Wittenberg.
Et que Rome voit d'un très mauvais œil, bien entendu.
Oui, bien entendu.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Sans pouvoir vraiment agir parce qu'on est sur le territoire du duc de Saxe. Ou de l'électeur de Saxe, plus exactement.
Merci, à demain.